16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour, je suis Stéphane Bern et c'est mon plaisir de vous retrouver chaque après-midi pour deux heures d'histoire décontractée et décomplexée avec un type complètement décomplexé, lui. Peut-être même un peu trop. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, mais en même temps, pour ce qui est d'être décomplexé, vous m'avez l'air d'être pas hyper prude non plus. Heureusement que nos auditeurs n'entendent pas ce que vous dites hors antenne juste avant l'émission, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre manière de vous vanter du cadeau que vous a fait Dame Nature est très décomplexée.
Ah bon, ça fait à peine 30 cm de haut et c'est une petite merveille de mouvement, d'équilibre et d'énergie.
Je parlais d'une pendule, sans doute.
D'une pendule, oui. Une drôle de pendule, mon Stéphane. Chassons en tout cas de notre esprit les images équivoques qui ont pu y naître, car aujourd'hui, Stéphane, c'est une spéciale bonne chère qui nous attend.
Oui, Mathieu, chaque jour, dans Historiquement Vôtre, nous évoquons trois personnages qu'a priori rien ne relie, sauf un point commun. Aujourd'hui, leur amour de la bonne chère. Je vous raconterai donc les destins de François Vatel, le premier grand cuisinier, et d'Alexandre Dumas, un gourmet passionné. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez une figure plus contemporaine de la gastronomie, n'est-ce pas ?
C'est ça, Stéphane, une figure plus contemporaine et aussi plus clivante, comme on dit, puisque je vous parlerai d'Issei Sagawa, le plus célèbre des cannibales japonais. Je crois qu'il a repéré vos poignées d'amour, Stéphane. Visiblement, il se les ferait bien à la sauce madère. En même temps, je suis pas hyper fort en japonais. Tchiki-tchiki, peut-être qu'il les préférait en tzatziki. Écoutez, on lui demandera.
Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre. On va être bien là, Stéphane.
C'est quoi là,
je sais pas, vous avez ripé.
J'ai ripé, j'ai pris
un accent. Qu'il y avait le japonais avant, je pense que ça vous a influencé. Reprenez.
En tout cas, dans Historiquement Vôtre, chaque après-midi, on revisite l'histoire. Toute l'histoire, la grande, la petite, la moyenne. Et au sommaire aujourd'hui, comme chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous fait pénétrer, sur la pointe des pieds, dans l'intimité de l'histoire, à la découverte des petits secrets des grands de ce monde. Il y a quelques jours, dans l'émission, elle l'avait promis.
Victor Hugo ajoute à ce triangle amoureux, bien rodé, la jeune et jolie Léonie Biard. Vous savez, celle avec laquelle il a été pris le pantalon sur les mollets en flagrant délit d'adultère dans un meublé du passage Saint-Roch. Hein. Là, il a courageusement sorti sa médaille de pair de France et elle est allée faire 2 mois de prison. C'est une autre histoire, je vous raconterai une autre fois.
Cette fois-là arrive Clémentine Portier-Kaltenbach en parle aujourd'hui même. Victor Hugo et Léonie pris en flagrant délit. Et puis, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, est à la fête sans même avoir à baisser son pantalon. Eh oui, avec lui, nous savourons l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui, à l'honneur, la burrata.
La burrata, vous le dites bien, on se croirait dans les pouilles. Enfin, à la demande de la direction qui a des doutes sur le CV que vous avez fourni, je vous testerai, Stéphane. Pas avec un coton-tige, mais avec un bon vieux quiz. Burn to be alive, l'outil qui vous permet chaque jour de mesurer votre érudition et de la comparer à celle de Clémentine. Mais avant la compétition, commençons de manière plus consensuelle avec un journaliste qui est, lui, très consensuel. Sa phrase la plus subversive depuis le début de la saison étant:
quand même, ce serait bien qu'on meure moins.
Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour, comment ça va?
Alors David, vous nous racontez les origines d'un plat que Mathieu a qualifié ainsi?
C'est comme une pizza avec de l'ananas dessus. C'est contre nature et choquant.
Ça risque d'être un de nos premiers désaccords.
Parce que vous êtes fan de la pizza. Quelle horreur.
Mais j'ai compris que ce garçon aimait des choses bizarres.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Cet après-midi, avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables d'amateurs de bonne chère. Le maître d'hôtel François Vatel, l'écrivain Alexandre Dumas.
Sans oublier Stéphane, mon amateur de bonne chère à moi, Issei Sagawa, tiki tiki, le plus célèbre des cannibales japonais.
Oui, alors en même temps, ça ne s'écrit pas de la même façon. Mais enfin, bon, le mot cher.
Oui, c'est vrai, ça marche aussi, oui, ça rentre dans la thématique.
On peut apprendre l'orthographe en même temps.
Voilà, c'est l'émission qui nous apprend plein de choses.
C-H-E-R-E pour mes patients à moi, et pour le vôtre, c'est hier. Oui. Alors, je reconnais en tout cas dans votre choix d'Issei Sagawa votre bon goût.
Bien sûr.
En parlant de goût, depuis quand, comment et surtout pourquoi t'on créé la pizza ananas? Alors, vous êtes peut-être jamais posé la question, mais lui, si. David,
il se pose toutes sortes de questions.
Lopez a la réponse.
Tout à fait. Alors, déjà, Mathieu, Stéphane, la pizza à l'ananas, on appelle ça la pizza hawaïenne.
Voilà. Ce qui n'a vraiment aucun sens. Ça rajoute une dimension encore plus
irréelle. On le verra, ça en a quand même un petit peu. La pizza hawaïenne, c'est de la pizza avec l'ananas dessus. C'est tout. C'est-à-dire, les autres ingrédients de la pizza peuvent varier. Mais à partir du moment où un morceau d'ananas touche votre pizza, toutes les autres définitions possibles de votre pizza sont écrasées. C'est une pizza hawaïenne. Il y a d'autres ingrédients comme ça qui ont un pouvoir de définition incroyable, comme les champignons, par exemple. C'est-à-dire, vous mettez des champignons dans une poêlée de pommes
c'est
de terre.
C'est une forestière.
Eh bien, direct, votre poêlée, elle devient forestière. alors qu'il y a plein d'autres trucs comestibles dans la forêt, hein, sur les châtaignes par exemple. Mais non, on a décidé que quand il s'agit de la cuisine, les champignons c'était des ambassadeurs de la forêt qui parlaient au nom de la forêt tout entière. Et franchement, moi je serais les châtaignes, je serais vénère.
Et alors, les champignons, vous avez pris quelques-uns pour cette chronique visiblement.
La pizza hawaïenne, c'est donc la pizza à l'ananas. L'ananas qui vient du mot guarani anana. Hein, qui veut dire parfumé. J'ai un peu perdu mon guarani.
Vous oui, oui, vous êtes moins fort en guarani qu'en japonais, qu'en anglais.
Voilà. Ananas qui, au passage, en anglais, se dit pineapple, hein, qui veut quand même dire littéralement pomme de pin, alors que c'est ni une pomme et que ça pousse pas du tout sur les pins.
Donc, c'est vrai, j'avais jamais réfléchi à
voilà,
ça.
Voilà, du coup, le Brexit, je me dis que bon, c'était pas une si mauvaise idée. Qui est la personne qui a réalisé ce mariage incongru entre un fruit exotique et un plat italien?
C'est une légende urbaine. Vous avez jamais vu quelqu'un restant à côté de vous prendre. Oh, moi, je prendrais la hawaïenne. Maintenant,
non, jamais.
Ou alors, il est lynché en place publique.
Elles existent encore sur les menus,
c'est bien que des gens les prennent. C'est juste un clin d'œil rigolo pour amuser les gens comme vous.
Qui est la personne qui a réalisé ce mariage, à votre avis? Quelle est la nationalité de la personne qui a créé la première pizza hawaïenne?
Un Américain, forcément.
Non.
Ou un Australien, ou...
Canadien.
Oui, ils ont le sens de l'humour, c'est pour ça.
Canadien d'origine grecque. Il s'appelait Sotirios Panopoulos.
Voilà, il est grec. Comme un méchant dans Tintin.
Il est né en 1934. Il a immigré au Canada quand il avait 20 ans. Et peu de temps après, il a ouvert un restaurant avec ses deux frères, Elias et Nikitas, dans l'Ontario. Et il servait tout un tas de choses typiquement américaines, comme des burgers, des pizzas, tout ça. Et ce qu'il raconte, Sotirios Panopoulos, c'est qu'au Canada, dans les années 60, la pizza, c'est encore une nourriture un petit peu exotique qui s'était pas encore dans tous ces canons qu'on lui connaît aujourd'hui, voilà, avec ses chapelles, ses précarés de la pizza, vous voyez, c'était un monde de liberté, Mathieu, et donc Sotirios, il pouvait expérimenter. Et un jour, comme ça, il a testé, il a acheté de l'ananas en boîte, il en a mis sur sa pizza, il a goûté, il a trouvé ça super, et plus important, ses clients ont trouvé ça super, parce qu'ils étaient ouverts d'esprit à l'époque, voilà, c'est ça que vous comprenez pas, Mathieu.
Oui, ça doit être ça, un manque d'ouverture d'esprit probablement.
Et il l'a baptisé Hawaiian parce que la marque d'ananas qu'il avait utilisée pour son expérience, c'était de l'ananas Hawaiian, mais c'était pas non plus n'importe quoi, parce qu'à une époque quand même, Hawaï produisait 80% des ananas du monde, donc voilà, c'est pour ça que ça vient de là. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de parler de la pizza à l'ananas que d'un autre type de pizza? Eh bien parce qu'on le sent un petit peu dans nos échanges, Mathieu, ici, la pizza à l'ananas, c'est devenu le thème d'une de ces controverses au second degré, oui, qui peuple l'internet.
Comme les yaourts à la cerise,
exactement. Et à partir de 2017, donc il y a des débats de dingue dans le monde à propos de la pizza hawaïenne. Le premier ministre islandais a dit dans une interview qu'il considérait que la pizza à l'ananas devait être interdite.
Mais oui,
l'internet s'en est mêlé. Tout le monde donnait des arguments sur la nature profonde de la pizza et sur la mesure dans laquelle une pizza restait une pizza si on mettait de l'ananas dessus. Par exemple, le présentateur très connu américain Jimmy Kimmel.
Pineapples do not belong on pizza. I don't care where you're from. Any pizza that tastes better, pineapple wasn't a good pizza.
Il nous faut votre traduction.
Votre connaissance de l'anglais.
L'ananas n'a rien à faire sur une pizza.
L'ananas n'a rien à faire sur une pizza. Il est donc d'accord avec vous. Alors, Sotirios, lui, il est mort en 2017, mais il a connu cette controverse. Bon, et moi, comme je suis un journaliste sérieux, hein, pour les besoins de cette chronique, bon, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de pizza hawaïenne, donc j'ai retesté la pizza hawaïenne, je l'ai commandée sur internet, elle m'a été livrée, et pour vous le prouver, j'ai enregistré le moment où je l'ai réceptionnée.
Bonjour monsieur, c'est bien la pizza hawaïenne,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Parfait, merci monsieur.
Au revoir.
Voilà, journaliste d'investigation, s'il vous plaît.
J'ai cru que le livreur allait vous dire, mais vous avez vraiment commandé ça, c'est pas une erreur.
J'aurais pu lui demander de le dire. J'ai goûté, j'ai regoûté, et franchement, je suis totalement pour dire. Je trouve que l'ananas est une petite addition heureuse au trop plein de sel qui caractérise la pizza, et il est suffisamment discret, en tout cas dans la version que j'ai goûtée, pour ne pas être déroutant. Voilà.
En fait, l'ananas, c'est pas frais, quoi. C'est l'ananas, il est en boîte, donc en plus il est plein de conservateurs.
Oui, mais c'est ce que j'aime bien, justement. Ce petit goût de conservateur.
Savez quoi? On ne vous réconciliera pas aujourd'hui. Non, et si vous croisez Olivier Poulle dans le couloir, ouais, il pourra même aller jusqu'à vous péter la gueule.
Oui, Sotirios Panopoulos, qui a quand même créé la plus grande controverse de ces dernières années sur Internet. Merci David Castello-Lopez.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Chaque jour dans Historiquement Vôtre, c'est la règle de 3. Une thématique, 3 personnages. Les deux premiers ont vécu il y a très longtemps. C'est donc logiquement Stéphane qui lui vit depuis très longtemps qui vous en parle. Oui. Aujourd'hui dans notre spécial Bonne Chère, François Vatel et Alexandre Dumas. Le troisième personnage en revanche est plus récent, comme moi. C'est donc Bibi qui s'en occupe. Parfois mon choix déstabilise un peu Stéphane par son côté iconoclaste. Mais aujourd'hui ça devrait bien se passer. Puisque pour fêter la gastronomie et les plaisirs de la table, je vous parlerai d'Issei Sagawa, figure pittoresque du cannibalisme japonais. Mais ce n'est pas encore tout à fait l'heure du goûter. Alors ouvrons-nous l'appétit avec notre premier personnage, François Vatel.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaud devant, je tâche. Aujourd'hui, historiquement vôtre, enfile son tablier pour une spéciale bonne chère. La dernière fois que Stéphane Bern s'est retrouvé en cuisine, c'était avec Monsieur Poulpe pour les recettes pompettes. Ce n'était pas joli joli à voir.
Ah non, en fait, je déteste et l'œuf mollet, et le tourteau, et la patate. Moi, j'aime les radis.
Oh mon Dieu, Stéphane, vous... il n'y avait pas une part de comédie dans ces recettes pompettes.
Un vous aviez... peu, on en rajoutait un peu.
Mais
oui.
Vous aviez vraiment bu.
Ah, j'ai 17 shots de vodka,
ah,
oui.
Moi qui ne bois jamais d'alcool. Vous n'aviez pas en rajouté beaucoup, quand même.
Non, moi qui ne bois jamais d'alcool.
Bon, alors, aujourd'hui, pas... heureusement, c'est à l'eau hein, que oui, Stéphane absolument. Vous raconte le destin de notre premier personnage du jour, François Vatel.
Historiquement vôtre.
Le récit.
L'une des plus célèbres écoles hôtelières de France porte son nom. François Vatel, illustre maître d'hôtel du XVIIe siècle, reste l'un des premiers grands noms de la gastronomie française. Au service des grands du royaume, de Nicolas Fouquet au prince de Condé, Vatel excelle. On ne sait pas vraiment comment ce fils de laboureur, plutôt promis à un avenir agricole, est devenu le maître d'hôtel le plus réputé du grand siècle, l'époque du couronnement du roi Louis XIV dont le règne durera près de 73 ans. Le plus long que la monarchie française ait connu et le plus fastueux aussi. Grandes réceptions et festins raffinés sont organisés par centaines et la table devient le lieu de compétition favori des hommes forts du royaume. La compétition, François Vatel en sait quelque chose. Il entre d'abord au service de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances du roi. À la tête d'une armée de serviteurs, le maître d'hôtel s'occupe de toutes les charges domestiques. Et Vatel, passé maître en gestion de l'événementiel, est reconnu pour sa capacité à organiser de somptueux repas. Fin gastronome, il a constitué un réseau d'approvisionnement sans pareil. À la table du maître, les invités se régalent des meilleurs produits du pays. Des gibiers, des volailles, des sols, des turbots, des brochets, des légumes nobles comme les asperges, les artichauts, des champignons ou encore des pyramides de fruits. La réputation de sa table rejaillit sur celle de Fouquet. Cette réussite attise la jalousie et rapidement, un complot se fomente contre lui. On accuse le surintendant des finances de vider les caisses du royaume pour servir ses intérêts personnels.
Non, mais vraiment. Oui. Où est-ce qu'ils sont les chercher, c'est à Fouquet dont on a parlé en plus.
Bien
ici.
Sûr. La disgrâce de Fouquet est actée, tout comme celle de son fidèle Vatel, qui se voit contraint de fuir le royaume.
J'espère qu'il part avec la bouffe au moins, avec les champignons, les artichauts, les pyramides de fruits, tout ça.
On l'espère pour lui.
L'histoire ne le dit pas.
Après des années d'exil, François Vatel regagne la France et devient le maître d'hôtel de Louis II de Bourbon-Condé, au château de Chantilly. Celui qu'on appelle le Grand Condé n'était autre que le cousin du roi Soleil. Mais la relation entre les deux hommes n'a pas toujours été tendre. Le Grand Condé, qui a été quand même un grand chef de guerre et qui faisait de l'ombre au roi Soleil, doit redorer son blason et regagner les faveurs de son cousin de monarque, lui qui avait pris les armes pendant la Fronde contre la monarchie.
Ah oui.
Pour sceller sa réconciliation avec Louis XIV, le prince de Condé, assisté de François Vatel, souhaite organiser en l'honneur du roi des festivités sans commune mesure.
Ça sera la première soirée mousse de l'histoire, Stéphane, je crois.
Presque. En sa qualité de maître d'hôtel, tout repose sur les épaules de Vatel qui doit pouvoir nourrir, divertir et loger le roi et sa cour entière pendant 3 jours et 3 nuits. Mais 15 jours avant la fête, il n'a encore aucune idée du nombre de convives attendus. Vatel travaille sans relâche, mobilise des jours et des nuits entières pour organiser ces immenses festivités dont le royaume entier devra entendre parler. Mais dès le premier soir, alors que tout doit être parfait, les contrariétés s'accumulent pour Vatel. Les invités sont arrivés si nombreux qu'au moment du dîner, le rôti ne peut être servi à toutes les tables.
Oui.
Et plus tard, alors que minuit sonne et annonce l'immense feu d'artifice qui doit célébrer la venue du roi, les nuages s'accumulent. Rassemblés dans les immenses jardins conçus par André Le Nôtre, le roi et sa cour ne pourront voir le ciel de Chantilly s'éclairer de mille feux.
Les pauvres, c'était pas simple à l'époque quand même, hein, pour les nobles, Stéphane. C'était
non,
dur, hein.
C'est-à-dire,
ne pas voir les étoiles dans le ciel de Chantilly, quand même,
oui,
c'est vraiment
je comprends,
dur.
Mais vous savez, ça m'arrive tous les ans, le 14 juillet, quand il fait pas beau, vous savez, je vois pas le feu d'artifice
vous non
que
plus,
je dois lancer.
C'est vrai, c'est vrai.
Au cours de cette grande fête, François Vatel aurait eu à affronter un nouvel obstacle. Une pénurie de crème dans les cuisines du château.
Jésus-Marie-Joseph.
Pour pallier ce manque, Vatel se serait muni d'un fouet pour donner du volume à un peu de crème qu'il avait sous la main, inventant ainsi la célèbre crème chantilly.
Ah ben, la crème chantilly naît donc à Chantilly, tout c'est clair.
Ça, c'est une légende, en fait.
Ah bon ?
D'abord parce que François Vatel n'a jamais été cuisinier et qu'il ne savait pas monter une sauce, vous voyez, même pas une crème.
À ce point-là.
Mais bien sûr. Il était maître d'hôtel, c'était un organisateur.
C'était un wedding planner, comme on dit aujourd'hui.
Oui, exactement, voilà. Il était dans l'événementiel.
Ouais, dans l'événementiel oui.
Et ensuite, parce qu'on sait que Catherine de Médicis
dégustait déjà des crèmes fouettées 20 ans auparavant.
Vous en avez, à part vous, personne ne sait ce qu'elle prenait au petit déjeuner, Stéphane.
Mais quoi qu'il en soit, quelque peu troublé, les festivités vont bientôt prendre une tournure dramatique.
Oh. Europe 1, historiquement vôtre.
Une tournure dramatique. Quelqu'un va-t-il tomber nu dans la chantilly comme samedi dernier chez Stéphane? Vous le saurez en écoutant la suite d'Historiquement vôtre.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On parle des amateurs de bonne chère aujourd'hui dans Historiquement Votre, et c'est une manie chez Stéphane, s'interrompre pile quand son récit atteint son point culminant, c'est-à-dire quand quelqu'un va clamser.
Mais non, mais vous voulez toujours envoyer de la pub, vous.
Ah mais c'est vous qui avez cette manie, c'est vous qui adorez les pubs cochonou. Y aura-t-il du rôti à midi? Qui va finir en broche? Va-t-il s'en sortir? Je crains le pire, Stéphane.
C'est pas mal, va-t-il,
oui, mais ça, il y a tout un travail d'écriture dans cette émission. Voilà,
non, moi, vous êtes très très doué.
Voilà, j'aime les assonances, j'aime tout ça.
Nous sommes toujours le soir du 23 avril 1671, au cours de cette grande fête où le manque de rôti et l'échec du feu d'artifice... Non, parce que c'est bouleversant quand même.
C'est bouleversant. Un jour, on parlera des paysans qui étaient à côté et qui n'avaient rien bouffé. Là, il manquait du rôti à deux tables.
Je ne suis pas là pour ça, vous m'avez fait venir pour que je vous parle.
C'est vrai, pour nous parler des grandes semences. Alors,
donc, tous ces événements fâcheux bouleversent le maître d'hôtel Vatel qui comprend. Se retire dans sa chambre. C'était pas le moment. Le prince de Condé vient le rassurer. Selon Madame de Sévigné, qui raconte les événements dans une lettre à sa fille, elle avait que ça à faire, il lui déclare « Vatel, tout va bien. Rien n'était si beau que le souper du roi. » Mais aucun mot ne soulage Vatel, lui qui s'est investi corps et âme dans la préparation de ses festivités. À l'aube du 24 avril, au deuxième jour des célébrations, François Vatel s'affaire déjà pour la 13e nuit consécutive. Le pauvre maître d'hôtel n'a pas pu fermer l'œil. À 4h du matin, il doit réceptionner une importante commande de poisson. La pêche servira le soir même à régaler les innombrables convives du prince de Condé. Mais à l'arrivée du pourvoyeur, Vatel se voit remettre une bien maigre livraison. Jamais il ne pourra remplir toutes les assiettes.
Mais il se fait du mouron pour rien, ce Vatel. Il y a une solution très simple dans ces cas-là. Moi, je le fais à tous les coups. Quand il manque quelque chose, hop, on décongèle des croustibates. Ni vu ni connu.
Si seulement, Mathieu. Mais pour le maître d'hôtel, impossible de servir autre chose que du poisson frais ou des fruits de mer. Car, souvenez-vous, ce 23 avril 1671...
Ça remonte quand même, Stéphane.
C'est un vendredi et c'est jour maigre. Il est donc interdit de manger autre chose que du poisson. Les heures passent et le reste de la livraison n'arrive pas. François Vatel annonce qu'il ne survivra pas à un tel affront. C'en est trop pour son honneur. Aux alentours de 8h, désespéré à l'idée de servir une assiette vide au roi soleil, François Vatel commet l'irréparable. Il s'empare d'une épée et, dans un geste spectaculaire, se transperce le corps à 3 reprises.
Alors qu'à Chantilly, juste à côté de la rocade, t'as un McDrive, un filet au fish, t'en commandais 150 et c'était gagné.
Vous salissez tout.
Excusez-moi, Stéphane.
Mais un terrible coup du sort se produit. Alors qu'il agonise et rend son dernier soupir, la précieuse livraison afflue vers les cuisines du château. Alors, le prince de Condé pleure son maître d'hôtel qui ne verra jamais la fin de cette grande fête. Mais Louis XIV et sa cour se délectent en temps et en heure du festin prévu. Eux, ils n'ont rien vu.
Ils n'ont rien compris.
Ils ne savaient même pas qu'il était mort. Ils ne savaient même pas que l'autre était vivant, d'ailleurs. Et le prince de Condé, qui est parvenu à redorer son image, termine son existence en prince du sang respecté. Le geste fatal du maître d'hôtel est peut-être la terrible conséquence du premier syndrome d'épuisement professionnel connu de l'histoire. Vatel était harassé par une succession de nuits blanches et rongé par un extrême souci d'excellence. La postérité n'en retient pas moins que l'excellent Vatel contribua grandement à développer les arts de la table comme la prestigieuse image de la gastronomie à la française.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler de Vatel, le maître d'hôtel, nous sommes en ligne avec un maître des pratiques culinaires et alimentaires, l'historien Patrick Rambourg.
Oui, bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Vous avez notamment écrit « L'art et la table » aux éditions Citadel et Masneau et « Histoire de la cuisine et de la gastronomie française » aux éditions Perrin, qui vient d'ailleurs d'être réédité. D'une certaine façon, Patrick Rambourg, le suicide de Vatel a participé au mythe du personnage. On a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment qu'il est plus entré dans l'histoire à cause de cet acte terrible que pour son travail au service de la gastronomie française.
Oui, c'est exactement ça. Il est rentré dans l'histoire tout simplement parce qu'il s'est suicidé. C'est un personnage extrêmement important à l'époque. François Vatel était connu pour son travail en tant que maître d'hôtel. Mais s'il ne s'était pas suicidé, s'il n'avait pas laissé, lui, des traces écrites, peut-être qu'on ne parlerait pas de lui aujourd'hui.
est-ce qu'il réalise que la commande est arrivée alors qu'il s'est déjà transpercé le ventre ?
Non, non, il ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que le peu de poissons qui arrivent en fait dans les chariots le matin le désespère. Il attend un peu, mais après il se rend compte que c'est catastrophique pour lui. N'oublions pas que nous sommes un vendredi, un jour maigre, et un jour maigre, il était impensable de ne pouvoir servir du poisson frais à la table de Louis XIV.
Ils ont aimé la bonne chère jusqu'à en mourir. On continue de parler de ces héros de la gastronomie française et du maître d'hôtel François Vatel en particulier avec notre invité Patrick Rambourg sur Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Et aujourd'hui, on parle de ces amateurs de bonne chère avec notre invité, l'historien des pratiques culinaires et alimentaires, Patrick Rambourg, qui nous éclaire sur Vatel, le maître d'hôtel qui a marqué l'histoire. Alors, je l'expliquais à Mathieu et aux auditeurs, Patrick Rambourg, Vatel était maître d'hôtel, il n'était pas cuisinier, c'est-à-dire que c'est pas le même métier. À l'époque, c'est une fonction considérable, le maître d'hôtel, c'est-à-dire on est au fond le grand organisateur des fêtes.
Un maître d'hôtel, c'est un personnage qui gère les services de bouche d'une grande maison. Donc il s'occupait de tout, il s'occupait de l'organisation de la table, de l'approvisionnement jusqu'au service des mets à table. Donc ça passait aussi par le monde culinaire, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il était en dialogue avec le chef des cuisines et avec le monde des cuisines, car il fallait élaborer aussi, d'une certaine façon, les menus, et notamment lors de grands événements comme celui qui s'est passé à Chantilly.
Comme la fête de Chantilly en 1671. Mais ce que vous racontez, comptez très bien dans vos livres, et vous nous l'avez dit en filigrane, il a révolutionné aussi la manière de servir. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que vous nous racontiez ce qu'est le service à la française, en quelque sorte, parce que ça, c'est un changement,
oui,
vraiment dans nos
tables. Ça manque beaucoup à Stéphane aujourd'hui, racontez-nous.
Alors, il faut savoir que le service à la française, c'est un service qui va s'imposer sur toutes les grandes tables européennes. C'est un service qui était assez long, d'une certaine façon compliqué, mais assez fabuleux. C'est-à-dire qu'on apportait un certain nombre de mets en même temps sur la table. Mais on ne déposait pas sur la table les plats de façon désordonnée. Tout était réfléchi, tout était pensé comme un jardin à la française. Il y avait tout un jeu de couleurs, tout un jeu dans la forme des plats. Et il faut savoir que s'il pouvait y avoir des dizaines et des dizaines de plats en même temps sur la table, les convives, en revanche, ne mangeaient pas tout ce qui était sur la table. Ils ne pouvaient accéder qu'aux plats qui étaient placés en face d'eux.
On n'allait pas se servir d'autres plats plus loin si on avait repéré quelque chose qui avait l'air bon plus loin.
Non, tout à fait, c'était pas possible. N'oublions pas non plus qu'il y avait toute une hiérarchie sociale autour de la table. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des mets différents selon le statut du convive.
C'était très intéressant. J'espère que quand vous me recevrez, Mathieu...
Écoutez, je vais essayer de m'inspirer de tout ça, mais alors je vais vous quitter tout de suite parce que j'ai pas de maître d'hôtel, donc je vais essayer de...
Ah bon,
je vais en recruter un rapidement.
En tout cas, si vous voulez connaître tous ces détails, c'est passionnant.
Ouais, c'est génial.
Vous lisez les livres de Patrick Rambourg. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Patrick, c'est L'art et la table et histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour décrypter avec nous la mort de Vatel qui avait échoué à servir du poisson au Rouen.
Quelle horreur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Couvrez ce sein que je ne saurais voir, disait Tartuffe dans la pièce de Molière. Mais non, je parle de la pièce de Molière. Avec elle, c'est plutôt montrez-moi ce nibard d'un peu plus près que je puisse le théma tranquille. Voici venir Clémentine Portier-Keltenbach, une historienne qui n'a pas peur d'enfoncer les portes des palais pour aller voir un peu ce qui s'y trame. Aujourd'hui, chose promise, chose due, elle nous parle de Victor Hugo, pris en flagrant délit d'adultère.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. Quand je pense qu'en 2020, certains pensent encore que l'histoire est une discipline poussiéreuse, voire rébarbative. Décidément, Mathieu, ils ne connaissent pas Clémentine Portier-Keltenbach.
Ça, c'est clair que ça les réconcilierait rapidement avec une discipline qui peut être extrêmement rieuse et même émoustillante quand elle est professée par une femme aussi passionnée que Clémentine. Une dingue d'histoire qui en oublie d'ailleurs parfois tout le reste.
Oh, ben j'ai oublié de payer mes impôts.
Bon, t'inquiète, Stéphane connaît le président, il passera un coup de fil. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach. Moi aussi, j'ai un truc à vous demander. Bref, Clémentine.
La peau de vache, j'avais parlé de la phobie administrative. Moi, je suis une honnête citoyenne et je paie mes impôts rubis sur l'ongle. Et je tiens mes promesses également, Mathieu, parce que je vous ai parlé l'autre jour des fameux carnets noirs de Victor Hugo, les carnets où il consignait toutes ses conquêtes amoureuses. Je vous avais promis de vous raconter ses déboires avec Léonie Biard. Et voici l'occasion toute trouvée, car nous sommes en septembre, et c'était un 10 septembre, on est le 11, mais c'est presque ça. 10 septembre 1845, Léonie Biard après 2 mois de prison, sortait enfin de Saint-Lazare, la prison parisienne réservée aux prostituées et aux femmes adultères. Et donc 2 mois plus tôt, 5 juillet 45, elle a donc été prise en flagrant délit de conversation criminelle avec Victor Hugo.
Je peux vous poser une question, pardon de vous interrompre.
Je vous en prie.
Les femmes adultères étaient mises en prison, mais pas les hommes adultères.
Mais j'y viens, cher Stéphane. Conversation criminelle, c'est le terme de l'époque pour adultère. On ne plaisante pas du tout avec ça, en particulier pour les femmes. Le code pénal de 1810 prévoit des peines de 2-3 mois à 2 ans de prison pour les épouses, alors qu'un mari infidèle ne peut être condamné qu'à une amende de 100 à 2000 francs. Donc elle, aujourd'hui, ça fera environ entre 200 et 4000 euros. Donc les femmes en tôle, les messieurs rentrent chez eux et paient l'amende, c'est dégueulasse. Alors imaginez la scène.
C'est scandaleux, moi je trouve.
Victor et Léonie somnolent, comblés après une nuit à roucouler ensemble, et tout à coup, à l'heure où blanchit la campagne, un commissaire de police de la place Vendôme, loti du mari cocu, Auguste Biard, frappe à la porte et déboule brutalement dans leur nid d'amour. C'est une vraie scène de vaudeville, hein, mais c'est Victor Hugo, entre autres. Alors pour Victor Hugo, Léonie n'est pas une conquête du jour au service tarifé. Hein. C'est vraiment sa maîtresse. Il est très amoureux d'elle. C'est Juliette Drouet en plus jeune. Elle est jeune, elle est belle, elle est intrépide. Et surtout, son mari, elle est connue pour ça. Je trouve que c'est un drôle de titre de gloire. Son mari l'a emmenée avec elle dans une expédition au Spitzberg en Laponie. Donc, elle a été, Léonie, la première femme occidentale à participer à une expédition boréale. Alors, en plus, elle écrit. Donc, évidemment, tout ça, ça plaît beaucoup à Hugo. Elle publiera les souvenirs de ce voyage grâce à Adèle Hugo, la femme qui va l'aider pour énerver la maîtresse. Bon, c'est une autre histoire. Alors, donc, dès qu'il la rencontre en 1844, Hugo se consume littéralement de désir pour elle. Elle devient sa maîtresse assez rapidement. Elle veut se séparer de son mari qui, lui, n'est pas d'accord du tout. Alors, vous imaginez Biard et le commissaire déboulent dans la chambre. Hugo a immédiatement le réflexe courageux mais pas téméraire. Pouf, il sort sa médaille de pair de France, car il a été fait pair de France il y a peu de temps. Et cette médaille...
Et ça protège de quoi?
Exactement, de tout.
Protège.
Ça protège de tout. En tout cas, on ne peut pas vous arrêter. Ça le rend inviolable
si
par la police.
Si je montre mon badge d'Europe 1, ça va...
Votre titre de chevalier de l'ordre britannique, peut-être que ça marche.
Ah bah ça, tout le monde s'en fout.
Non, je pense avec votre badge Europe 1, vous allez immédiatement en cellule de dégrisement et ça vous fera beaucoup de bien. Alors Léonie, donc elle est immédiatement embarquée, hein, et dès le lendemain, l'affaire est dans toute la presse parce que Hugo mais vous, si vous étiez pris comme ça, je pense que le lendemain, c'est dans toute la presse, Stéphane, bien sûr. Oui. Et là, c'est Hugo.
C'est alors, dans toute la presse aussi.
Ah mais bien sûr.
Vous venez de comparer Stéphane Bern à Victor Hugo en termes de notoriété et de talent.
Je peux le faire. Ouais. La notoriété,
oui,
bien
la
sûr,
notoriété c'est la une, même, c'est vrai.
C'est un puissant aiguillon, bien sûr. Hein.
Non mais j'essaie d'imaginer parce que pair de France, ça équivaut à être sénateur aujourd'hui. Est-ce qu'avec votre carte de sénateur, vous êtes pris en flagrant délit? Est-ce que ça marche?
Et aujourd'hui, on ne va plus en
prison
pour
l'adultère. Je pense qu'on prend avec vous un certain nombre de pincettes quand même. Oui. On fait attention. En tout cas, Auguste Biard, lui, porte plainte contre Victor Hugo à la Chambre des Pairs, justement. L'affaire arrive aux oreilles du roi Louis-Philippe, qui va intervenir en personne auprès du mari cocu, en disant allez, retirez votre plainte, c'est quand même Victor Hugo. Alors Victor Hugo, il a risé de tout Paris et il en est quitte pour se terrer quelque temps chez lui. Bon. Et ce scandale, rapidement étouffé, fera dire à Lamartine qu'en France, on se relève de tout, même d'un canapé. Alors cette aventure Léonie-Victor Hugo a duré une dizaine d'années, puisqu'avec le Second Empire, Hugo et toute sa famille partent en exil, comme vous le savez, à Jersey et Guernesey. Mais elle va quand même se séparer de son mari et elle obtient la garde de ses enfants et Hugo, jusqu'à sa mort à elle, lui versera une pension pour qu'elle puisse s'occuper bien de ses enfants. Il l'a vraiment aimée et il l'aura soutenue de bout en bout. Alors, petite précision.
Pas, de bout en bout.
Moi, quand je fais des blagues salaces, vous savez très bien que c'est à l'insu de mon plein gré, j'y suis pour rien. Alors, pour finir, une petite précision. Ah, oui. Dans les semaines qui ont suivi ce scandale avec Léonie, Hugo a fait courir le bruit qu'il était parti en Espagne. En fait, pas du tout. Il se cachait chez lui et c'est là, pendant qu'il se cachait, qu'il a commencé à écrire Les Misérables. Et puis 10 ans plus tard, dans leur fuite précipitée pour la Belgique puis Guernesey, qui a sauvé la malle qui contenait les manuscrits des Misérables? C'est Juliette Drouet. Autrement dit, on l'aura compris, ce chef-d'œuvre de la littérature universelle doit beaucoup aux conversations criminelles de Victor Hugo avec Léonie Biard et Juliette Drouet. Et ouais,
bravo,
les gars. Et je vous précise que le délit d'adultère n'a été abrogé qu'en 1975.
Ça, c'est quand même fou. Mmh. C'est le plus fou dans ces histoires.
Merci Clémentine. Alors, restez avec nous, puisque c'est le moment que vous attendez avec impatience. Enfin, moi, un peu moins, pour me ridiculiser.
C'est compréhensible, Stéphane, tant ce moment est parfois douloureux. Notre quiz qui vous oppose chaque jour à Clémentine pour définir lequel de vous deux est le plus balèze en histoire. Et ne mentez pas, je suis sûr qu'au fond, vous y prenez du plaisir.
Oui, vous aimez ça, que je vous domine dans le quiz.
Mais oui, il aime ça.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans un voyage temporel absolument ébouriffant. Toutes les époques, toutes les histoires, grandes et petites, avec toujours un fil conducteur. Aujourd'hui, les amateurs de bonne chère, les amoureux de la gastronomie avec Vatel, Alexandre Dumas et Issei Sagawa, le cannibale japonais qui aimait un peu trop les ovaires rissolés au judaï. Deux heures où l'on apprend, où l'on rit. Mais où l'on souffre également avec Stéphane Baird quand vient l'heure du quiz. Chaque jour, le choc de deux cerveaux plus ou moins performants, celui de Stéphane contre celui de notre historienne Clémentine Portier-Keltenbach. Ensemble, jouons sans plus tarder à Born to be Alive. Vous connaissez le principe, qui n'est pas très compliqué.
Attendez, on va inverser les rôles.
Comment ça?
Je vais vous poser des questions.
Bah, pas du tout, j'ai les questions et j'ai les réponses.
Bah, je pense qu'on va lancer l'idée pour voir. Lundi prochain, on fait ça.
Lundi prochain. Mais pour l'instant, vous allez encore déguster. Question 1, c'est pour vous, Stéphane. On visualise tous Abraham Lincoln, le 16e président américain, oui, avec son grand chapeau. Eh bien, il avait parfois un petit saucisson ou des petites mignonnettes de rhum cachées dans son couvre-chef. Vrai ou faux?
J'ai lu quelque part une histoire de ce qu'il y avait dans son chapeau.
Ah!
Maintenant...
Mais peut-être pas d'alcool, comme si vous croyez. C'était quand même un homme austère. Non, puis sa femme veillait au grain. Elle était.
Mais justement, pas, c'était une période où ça rigolait pas.
Et il aurait pu
peut-être
cacher,
qu'il
vous
aurait
pensez.
Pu cacher des.
Comme ouais, Pierre et la brandade de morue, ouais, peut-être.
Je vous recommande le prochain numéro de Secret d'Histoire sur Abraham Lincoln qui se tapait du rhum en cachette, des fioles de rhum cachées dans son chapeau. Absolument faux, Stéphane.
Vous avez donné votre réponse,
j'ai décidé pour vous. Il y rangeait souvent des documents, voire des discours importants, car c'était effectivement quelqu'un de travailleur, comme ça, et qui ne se laissait pas
donc
aller
j'ai
au vice de
l'alcool. Plutôt bien répondu.
Vous avez donc une mauvaise réponse. Mais Clémentine Portier-Keltenbach.
Non, mais vous avez décidé, si vous êtes de mauvaise foi.
Si on dit ancestral, c'est parce qu'à l'origine, on disait en cristal.
Ancestral, je vois absolument pas le rapport avec la choucroute, je réponds faux.
Vous répondez faux, vous avez raison Clémentine. Oh, une bonne réponse de Clémentine.
Elle a que des questions faciles.
Ah bah c'est pas facile, je serais pas
bien. Lincoln avec du rhum dans son chapeau.
Franchement,
non mais
Stéphane, il n'y a que vous pour imaginer
un
ça.
Un vrai wasp protestant bigot avec sa bobonne derrière, avec son rouleau à pâtisserie. Il ne mettrait pas du rhum dans son chapeau.
Alors ancestral, vous voulez savoir d'où ça vient? Ancestral vient de ancêtre oui. Et cristal vient du grec croustallos qui signifie la glace. Sachez que le croustallos préféré de Nikos est la pistache. Je vous dis ça comme ça, petite info en plus. Stéphane, essayez de vous concentrer un petit peu, Stéphane. Vous faites un peu de peine. Est-ce que, même parce que j'ai beaucoup d'amitié pour vous, et voilà, j'aimerais bien que votre image en prenne un coup, donc il faudrait quand même essayer de glaner un ou deux points ici ou là. Est-ce que Baudelaire aurait pu prendre le métro londonien? Oui ou non? Alors je sais que les chiffres, c'est pas non plus votre fort, hélas,
c'est pas mal
sur cette question, mais essayez de réfléchir. Baudelaire dans le métro londonien, est-ce que c'est possible?
Les fleurs du mal, c'est 57, Stéphane. Le métro londonien, ça doit être 20 ans avant le parisien,
oui.
C'est plutôt 1880.
80, mais il est mort.
Il est mort, il est déjà mort.
Il est déjà mort. Le soleil.
Il n'est pas mort en... Je pense... Est-ce qu'il n'est pas mort en 67, un truc comme ça?
Oui, il est mort en 67.
Alors là, je vous donne juste une petite piste. Oui, il est mort en 67. Ça, c'est une bonne réponse. Mais reste à savoir quand le métro londonien a ouvert ses portes. C'est...
Le métro londonien aurait 30 ans d'avance sur le nôtre, paraît énorme.
Ça paraît énorme, 30 ans d'avance.
Non, moi je dirais non.
On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Stéphane, vous êtes incorrigible. Le métro londonien ouvre pour la première fois en 1863.
Mais nous, c'est 1900, vous rendez compte?
Eh bien alors, mais parce que les Anglais avaient un temps d'avance.
Bonne
question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. James Shadick est un physicien britannique qui a même eu un prix dans sa discipline. Il a découvert le neutron, mais aussi la rustine. Vrai ou faux?
Oh bah, qui peut le plus, peut le moins. Le gars qui invente le neutron, il peut bien avoir inventé la rustine. Je dis vrai.
Et c'est faux. Il n'a découvert que le neutron, c'est déjà pas mal. Ce qui est amusant, c'est qu'il a fréquenté l'université de Manchester. À la base, il s'était inscrit en maths. Il s'est retrouvé par erreur en physique. Très poli, il n'a jamais osé contester. Comme quoi, c'est pas mal Parcoursup. Question 5 pour vous deux. Elle va vous départager, même si il faudrait un miracle pour que Stéphane l'emporte. Attention, encore une question sur un moyen de transport que vous prenez peu, comme le métro.
Mais
1970, le RER. Alors, je dis le RER, c'est comme un métro, mais qui va plus loin. En 1970, le RER est inauguré, Stéphane. Quel petit souci a retardé sa mise en service ? Trois propositions. Les rails commandés n'avaient pas tous le même espacement. Les constructeurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la note de musique jouée quand les portes se ferment. Ou ils voulaient l'appeler Métro Express Régional Défense Étoile, mais ils se sont aperçus au dernier moment que les initiales, ça faisait merde.
L'espacement, c'est le problème qu'on a avec l'Espagne, vous savez,
et
quand
avec
vous
l'Angleterre,
arrivez à Irune.
On a un problème d'espacement.
Oui, oui.
Je pense que c'est la plus logique. C'est la réponse, oui. C'est la réponse la plus logique.
Écoutons.
Vous avez perdu.
Grand chelem de la loose aujourd'hui pour vous. La réponse, c'était qu'il voulait l'appeler le Métro Express Régional Défense Étoile. Autrement
bon,
dit, le merde. Ou la merde, je ne sais pas, c'était la merde. Au moment de peindre les pancartes, ils se sont aperçus du petit souci. Ils ont fait machine arrière. Qui remporte ce quiz ?
La ligne B, oui, c'est vraiment...
c'est aussi la mère, la ligne B, que vous prenez évidemment tous les matins. Non, nos auditeurs peuvent vous y croiser.
Tous les matins, mais ça m'arrive. Oui.
Vous y tenez salon. Bien sûr, et donc c'est Clémentine qui remporte le quiz à la surprise générale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Si je vous dis, Stéphane, que la deuxième heure qui arrive sera encore plus palpitante que celle que nous avons vécue, qu'est-ce que vous me dites ?
Je vous crois sur parole, Mathieu. Vous êtes Suisse, et un Suisse ne ment jamais.
Sauf pendant la guerre, Stéphane. Mais c'est une autre histoire, mais ce n'est pas celle que nous racontons aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Deux heures d'histoire feel-good avec trois personnages et une thématique. Aujourd'hui, les amateurs de bonne bouffe à travers le temps.
Oui, Mathieu, et après avoir évoqué la figure de Vatel, je vous propose de continuer côté consommateur avec un gourmet illustre. L'écrivain Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas, les trois pommes de terre, le comte d'Ossobuco, ou encore les bouchées à la reine Margot. Que de chef-d'œuvre, que de chef-d'œuvre.
Ouais, enfin, c'est presque ça, mais pas tout à fait. Ouais. Et vous, Mathieu, comme vous êtes le plus calé en histoire récente, vous nous parlerez d'un troisième personnage haut en couleur qui aimait la sauce hollandaise.
Oui, la sauce hollandaise, comme vous le dites finement. Un autre gourmet à sa manière, moins conventionnel. Je l'ai eu au téléphone pour préparer cette émission. Il m'a dit qu'il vous trouvait délicieux. Ah. Je vous raconterai l'incroyable histoire d'Issei Sagawa, dit le cannibale japonais.
(rire) 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission d'histoire qui va vous la faire aimer, même si, comme Mathieu Noël, vous avez eu 8 au bac.
8 et demi, Stéphane, c'est pas tout à fait pareil, je vous prie d'être précis. Nous sommes effectivement au cœur de deux heures d'histoire assez différentes de celles que vous pratiquiez au lycée.
Oui, deux heures au cours desquelles on réunit trois personnalités qui n'auraient jamais pu se croiser. Bah oui, surtout qu'ils habitaient à des époques différentes.
C'est vrai,
mais
c'est
qui,
con.
Par la magie de la radio, sont réunis aujourd'hui, unis simplement par un même point commun.
Et ce point commun, c'est la bouffe, la popote, la ripaille, le frichti, bref, on parle des amateurs de bonne chair aujourd'hui. Vous-même, Stéphane, je crois savoir que vous n'êtes pas du genre à vous réchauffer des pastabox lustu cru à la va-vite. À part le caviar, pas d'autre intolérance alimentaire ?
Le homard.
comme votre ami François de Rugy.
Non, j'ai des goûts très simples. Une tartine, ça me suffit. Alors, pour célébrer la gastronomie, on vous raconte aujourd'hui la vie de ces amateurs de bonne chair. Après Vatel, place à Alexandre Dumas et son célèbre grand dictionnaire de la cuisine.
Alors, l'histoire au sens noble du terme, c'est lui. L'histoire plus récente, parfois moins glorieuse, voire dégueu, c'est moi.
Mais rassurez-moi, Mathieu, le troisième personnage que vous avez choisi pour votre portrait du jour est quand même dans notre thématique du jour, les amateurs de bonne chair.
Ça, je dirais même qu'il est pile dedans, Stéphane, puisque je vous parle d'Issei Sagawa, le plus célèbre cannibale japonais. Parce que la musique chinoise, ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas.
Au programme de cette deuxième heure également, pour comprendre, toujours en s'amusant, comment le passé éclaire notre présent. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chair, nous raconte l'histoire des recettes et de la cuisine, et aujourd'hui de la burrata.
La burrata.
Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Je vous dirai pourquoi on dit la tour de Babel.
C'est vrai ça, pourquoi on... Vous pouvez pas le dire tout de suite.
Ben non.
Même pas d'indice.
Il faut parler les langues.
Il faut parler les langues ?
Oui.
Ça ne veut rien dire.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il a nourri, de par ses romans cultes, notre imaginaire, mais lui-même adorait se nourrir. C'était un fin gourmet. Voici dans notre spécial les becs fins de l'histoire, celle savoureuse d'Alexandre Dumas.
Historiquement vôtre. Le récit.
Connaissez-vous le point commun entre François Vatel et notre deuxième personnage ? Alors oui, bien sûr, on les a choisis pour leur amour de la cuisine. Mais les deux hommes ont tous deux été incarnés à l'écran par un autre amateur de bonne bouffe et de bonne bouteille aussi.
Olivier Pouls.
Non, Gérard Depardieu.
J'étais pas loin.
Alexandre Dumas, donc. Il est romancier et auteur de théâtre, et surtout l'écrivain le plus populaire que le 19e siècle a vu naître. Parmi ses plus célèbres romans, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et La Reine Margot, continuent de captiver des générations entières de lecteurs. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en plus d'être un auteur prolifique et reconnu, Alexandre Dumas était aussi un fin gourmet et un cuisinier émérite. Si Alexandre Dumas est le fils d'un grand militaire de la Révolution, le premier général d'ailleurs d'origine antillaise que l'armée française ait compté, il est aussi celui d'une fille d'un maître d'hôtel réputé. Sa mère, dont on parle peu, est pourtant celle qui lui transmet très jeune le goût de la bonne chair et des plaisirs de la bouche. À Villers-Cotterêts, la ville de l'Aisne où il voit le jour en 1802, ce siècle avait 2 ans, Alexandre Dumas se plaît d'ailleurs beaucoup plus à la chasse et au fourneau qu'aux côtés de ceux qui doivent assurer son éducation. De cette jeunesse passée dans sa petite bourgade du Nord, Dumas évoque quelques souvenirs. Il y a d'abord les témoignages de l'Histoire en marche et le souvenir des passages en ville de l'empereur Napoléon. Conquérant avant la bataille de Waterloo, Dumas le voit revenir défait et humilié quelques jours plus tard. Mais le souvenir qu'Alexandre Dumas prend encore plus de plaisir à raconter, c'est celui des andouillettes de Villers-Cotterêts. Les meilleurs qu'il ait jamais dégustés.
Napoléon, l'andouillette, il est pile poil dans le thème de notre émission, dites donc.
Après avoir quitté sa région natale, Dumas s'installe à Paris et se découvre une passion pour l'écriture.
Ah non, l'écriture.
Très vite, la gloire littéraire et la fortune le gagnent. Ses pièces de théâtre font salle comble et ses romans feuilletons publiés dans la presse connaissent un grand succès. Mais entre deux séances d'écriture où il explore les méandres de l'histoire française, Alexandre Dumas aime toujours autant s'affairer en cuisine. Les dîners pantagruéliques qu'il organise sont l'occasion pour lui de démontrer ses indéniables talents de cuisinier. À la table de Dumas, on mange du bœuf bouilli, de la matelote de carpe, du lapin cuit dans sa peau ou encore de la bouillabaisse.
Mais c'est lui qui fait tout ça ?
Oui. D'ailleurs, chaque virée à Marseille est l'occasion pour Alexandre Dumas d'aller défier l'ego des Marseillais en leur montrant que le nordiste qu'il est maîtrise aussi bien qu'eux la recette du plat régional.
C'est couillu de sa part.
Auteur infatigable, gastronome inventif, Alexandre Dumas est aussi un voyageur passionné. Ses pérégrinations inspirent ses récits, mais elles contribuent aussi à noircir ses carnets de recettes. De ses voyages en Afrique du Nord, Dumas garde une parfaite maîtrise du méchoui. De sa découverte de Naples, un goût prononcé pour les macaronis, qu'il appelle tout simplement des tubes de pâte. Comme son double littéraire, le mousquetaire Porthos, Alexandre Dumas a un bon coup de fourchette et le moins que l'on puisse dire, c'est que son goût des bonnes choses saute aux yeux.
Vous êtes en train de nous dire publiquement que Dumas est gros.
Disons qu'il suffit d'observer les portraits que l'on connaît de lui, car au cœur d'un siècle qui marque l'avènement de la photographie, la silhouette d'Alexandre Dumas a été immortalisée à plusieurs reprises par son ami, le photographe Félix Nadar.
Donc on voit l'évolution de la silhouette.
Sur ces clichés, on découvre un personnage joufflu aux cheveux ébouriffés dont on peut dire qu'il cultive une certaine tendance à l'embonpoint. Oui Mathieu, on peut le dire.
On peut le dire.
Pour les caricaturistes de l'époque, cette corpulence tout en rondeur est d'ailleurs une inépuisable source d'inspiration et de moquerie. Il est très caricaturé, vous savez, avec son ventre. Quoi qu'il en soit, Dumas est un être tout en démesure. Si son physique est imposant, son caractère l'est tout autant. Grand épicurien, il croque la vie à pleines dents et vit de folie en tout genre. Mais quelle folie le prend donc à la fin de l'année 1844 ?
Europe 1, historiquement vôtre.
Il nous cuisine à feu lent, mais c'est bon. Avec toutes ses andouillettes, Stéphane Bern va prendre un cachou et il revient tout de suite vous raconter la fin du destin d'Alexandre Dumas avec une haleine rafraîchie.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue. Chaque jour, 3 personnages, une thématique. Aujourd'hui, les amateurs de bonne chair à travers l'histoire, de Vatel à ce facétieux cannibale japonais dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais pour le moment, retrouvons Stéphane Bern pour la suite des aventures d'un autre cordon bleu, plus conventionnel que mon cannibale nippon, Alexandre Dumas, le roi du méchoui.
Dumas n'est pas si conventionnel que ça. Il a la folie des grandeurs. Et en 1844, lui qui n'a jamais possédé le moindre bien immobilier, décide humblement de faire édifier un château à Port-Marly dans les Yvelines.
Très mignon d'ailleurs.
Oui, Dumas inaugure le château de Monte-Cristo en juillet 1847 et pend la crémaillère face à un parterre d'invités subjugués par la démesure des lieux. Cette résidence sera le lieu de nombreux festins avant la faillite de l'écrivain, très vite rattrapé par ses folies. Des années plus tard, Alexandre Dumas reçoit de la ville de Cavaillon une requête plutôt flatteuse. La ville provençale souhaite remplir sa nouvelle bibliothèque des meilleurs ouvrages du moment et demande à Dumas de lui faire parvenir quelques-uns de ses livres. Il envoie l'intégralité de son œuvre, mais à une seule condition. Que la ville de Cavaillon lui octroie une rente viagère de 12 melons par an. Dumas n'a plus de château, mais des melons, dont il se régalera bien heureux jusqu'à la fin de sa vie. J'en connais un autre qui a le melon, lui.
Enfin bon, je vous en prie,
Stéphane. Ces dernières années, d'ailleurs, Alexandre Dumas les consacre à l'écriture d'une encyclopédie gargantuesque et un peu fantaisiste, il faut bien le dire, publiée en 1872. Son grand dictionnaire de la cuisine est truffé de milliers de recettes, de la plus classique à la plus surprenante. Dumas propose par exemple la recette des pieds d'éléphant que vous voulez bien nous transmettre, Mathieu ?
Avec joie. Prenez un ou plusieurs pieds de jeunes éléphants, enlevez la peau et les os après les avoir fait dégorger pendant 4 heures à l'eau tiède, partagez-les ensuite en 4 morceaux dans la longueur et coupez-les en deux.
Oui.
On n'y pense pas assez à cette recette quand on reçoit.
Oui, c'est évidemment horrible. Mais en 1872, c'était toléré. Au fil des pages, on découvre d'autres recettes à ne plus reproduire, comme celle du ragoût de tortue ou de la...
C'est surtout que c'est dégueulasse, le ragoût de tortue, j'imagine.
Je n'ai jamais goûté. Ou de la queue de kangourou.
Je vous en prie.
La passion dévorante d'Alexandre Dumas pour la gastronomie aurait-elle pu le conduire à abandonner la plume au profit du tablier ? En 1866, on raconte qu'il a émis l'idée d'ouvrir son propre restaurant sur les Champs-Élysées.
Chez Dudu.
Mais l'écrivain gastronome n'aura pas le temps de satisfaire d'autres papilles que celles de ses habituels convives. Il meurt en 1870 et laisse en guise de testament d'innombrables recettes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler d'Alexandre Dumas, le bon vivant, le roi du méchoui, nous a appris Stéphane, on reçoit un homme qui fait au doigt mouillé un tiers du poids d'Alexandre Dumas, mais qui aime bien manger aussi, surtout à la cantine d'Europe 1. Je l'ai même déjà vu reprendre deux fois des carottes râpées. C'est notre collègue de bureau, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Nicolas Caro, vous êtes journaliste littéraire à Europe 1, vous présentez La Voix et Livre tous les dimanches à 14h et vous êtes un spécialiste, il faut le rappeler, d'Alexandre Dumas. Ça tombe bien pour nous parler de notre personnage du jour. Vous saviez que la cuisine tenait une part importante dans la vie de Dumas depuis son enfance. J'ai raconté que son goût venait de sa mère et de son grand-père qui était aubergiste, mais c'était une famille d'épicuriens, les Dumas.
Alors oui, du côté de sa mère. Effectivement, son grand-père était maître d'hôtel aussi du duc d'Orléans.
Oui.
Donc c'était haut niveau. Et ensuite, une auberge. Et il baigne là-dedans, Alexandre Dumas. Mais il y a un côté austère aussi dans l'enfance de Dumas, puisqu'il perd son père très jeune. Il a 5 ans. Il le vit très très mal. C'est très très compliqué, son enfance, Alexandre Dumas. Et c'est peut-être par la gastronomie, en fait, qu'il accède à une part de bonheur d'enfance. Et on retrouve d'ailleurs cet enfant-là dans un livre qui est plus vraiment connu d'Alexandre Dumas, qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Ange Pitou, et qui est une sorte de garçon de campagne comme ça, qui pose des collets dans la forêt, etc. Mais très joyeux, très, très dans la générosité comme ça de l'enfance, et c'est, à mon avis, c'est Alexandre Dumas, et il y a toute une part de gastronomie derrière tout ça.
Est-ce que c'est une pure passion de la gastronomie en tant que telle, ou est-ce que c'est aussi qu'à l'époque organiser des dîners comme ça pantagruéliques qui plus est dans son château, c'est aussi un signe de puissance sociale ?
Alors, ça peut être un signe de puissance sociale dans la société. Pour Dumas, c'est pas du tout ça. Pour Dumas, c'est juste que c'est un jouisseur et qu'il est généreux et qu'il aime être entouré toujours de beaucoup d'amis. Quand il a son château de Monte-Cristo à Port-Marly, il y a toujours des gens chez lui, mais sans arrêt. Dans la cour, il y a des paons, il y a des autruches.
Il les mange pas.
Il fait des énormes repas comme ça.
Mais ça l'a ruiné.
Et effectivement,
il a vendu ce château.
Il l'a gardé 3 ans.
Mais cela dit, allez le visiter parce qu'il y a ce salon.
Déjà, Stéphane.
Salon Moresque qui est extraordinaire. Oui, vraiment.
On sent la générosité
du mal. Alors, on va continuer de parler de ces amateurs de bonne chère qui sont les héros de notre émission du jour. Et on va parler d'Alexandre Dumas en particulier avec notre invité Nicolas Caro, notre collègue du bout du couloir.
C'est vrai qu'il est pas loin, on peut presque le toucher.
Journaliste littéraire à Europe 1. Moi, j'ai très envie de lui poser plein de questions sur ce grand dictionnaire, le grand dictionnaire de la gastronomie d'Alexandre Dumas, parce qu'il y a plein de choses bizarres dedans. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Qui mieux que Nicolas Caro, journaliste littéraire à Europe 1 et grand spécialiste d'Alexandre Dumas, pour nous parler d'Alexandre Dumas, non pas le grand auteur, des Trois Mousquetaires notamment, mais le jouisseur et l'amateur de bonne bouffe.
Bah justement, ce grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas, c'est alors il y a quelques recettes, mais il y a beaucoup de choses complètement farfelues.
Mais en fait, c'est un testament. Dumas, il écrit ce dictionnaire en 1869, il meurt en 1870 et il l'aura jamais dans les mains en fait. Il est publié après sa mort en 72 parce qu'entre-temps il y a la guerre aussi. Mais en fait, c'est plutôt à la fois donc des recettes effectivement, mais des trucs complètement baroques. Oui. Il y a le poulet à la ficelle et à la broche à trois étages, donc ça veut dire que vous mettez en haut une noix,
oui,
retire.
On a gardé ça, vous savez qu'on a gardé
des bécasses,
Nicolas.
Et en dessous une dizaine de cailles.
Mais oui, mais ça a été reproduit, vous savez pourquoi ? Parce que le jus des différentes volailles tombe les unes sur les autres.
Exactement.
Et donc ça arrose de manière différente.
Exactement.
Il va falloir que je le travaille ce dîner chez moi, où je vous invite Stéphane, parce que là vraiment c'est high level quoi. J'ai un peu peur.
Mais c'est pas que des recettes, c'est beaucoup de digressions sur ses impressions de voyage. Dumas a énormément voyagé et donc en fait il y a des romans en fait, parfois il peut partir sur plusieurs pages sur l'histoire de la moutarde par exemple, et puis ensuite il revient à la recette.
Mais on a l'impression, c'est drôle ce que vous dites Nicolas Caro, c'est un testament, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que tout Dumas est dedans au fond?
Exactement, Dumas il a publié ses mémoires mais il n'y a pas toute sa vie, puisqu'il les a publiés bien avant sa mort et ça s'arrête assez tôt finalement. Mais c'est pour moi les vraies mémoires de Dumas, c'est ce grand dictionnaire de cuisine. Il y a tout
et
il y a le personnage. On le trouve très facilement.
Ah oui,
il est en version de poche et tout. Après, il y a des versions collector. Mm-hmm. Je sais que Clémentine Portier-Kaltenbach a une édition originale du grand dictionnaire de cuisine.
Ah oui.
Ça, j'aimerais bien le voir parce que ça se trouve pas facilement effectivement.
Donc Clémentine Portier-Kaltenbach peut racheter Europe 1. C'est intéressant de le savoir. C'est toujours important de le savoir parce que voilà,
elle peut faire un très grand restaurant.
Je dis, il y a eu un très bon livre qui est sorti aussi il y a quelques années sur Alexandre Dumas et la cuisine. On a fait ça sur beaucoup d'auteurs, sur leurs recettes préférées, la manière dont on se nourrissait à l'époque. Parce que c'est vrai que c'était un fin gourmet, mais il était... Et j'ai l'impression parfois qu'il était plus gourmand que gourmet, non ?
Ben, les deux, en fait. Pour moi, Dumas, il est souvent incarné par Depardieu.
Oui.
Dans les films,
ça lui va bien.
Et Depardieu incarne aussi Porthos dans l'adaptation
Porthos,
des Mousquetaires.
En fait, c'est Dumas.
Mais c'est Porthos, exactement. Dumas égale Porthos. C'est la même chose. C'est un jouisseur comme ça. Et dans ses romans, on trouve sans arrêt aussi de la nourriture et des repas, etc. Si vous avez deux secondes, j'ai un petit extrait de Monte Cristo au début.
Pour vous, on a toujours deux secondes.
Quand Edmond Dantès, pendant les fiançailles, vous savez, au tout début du roman. Voilà, déjà couraient autour de la table les saucissons d'Arles à la chair brune et aux fumées accentuées, les langoustes à la cuirasse éblouissante, les praires à la coquille rosée, les oursins qui semblent des châtaignes entourés de leur enveloppe piquante, les clovis qui ont la prétention de remplacer avec supériorité pour les gourmets du midi les huîtres du nord, enfin tous ces hors-d'œuvre délicats que la vague roule sur la rive sablonneuse et que les pêcheurs reconnaissants désignent sous le nom générique de fruits de mer.
Magnifique.
Ça, c'est dans Monte Cristo. On est déjà dans le roman.
C'est incroyable. Non, c'est absolument
génial. C'est une description
génial.
De paysage, mais là, c'est des.
Résultat, vous savez qu'il posera. On a parlé de Félix Nadar, le photographe du 19e siècle, mais il posera bien des problèmes à ceux qui voudront faire des statues. Et il y en a une à Paris, notamment, ériger une statue pour Alexandre Dumas. Parce qu'il prenait un tour de taille chaque année.
C'est un ogre.
En tout cas, c'était un ogre, exactement. En tout cas, merci Nicolas Caro d'avoir été notre confrère du bout du couloir, de nous avoir livré comme ça les secrets de cuisine d'Alexandre Dumas. On vous retrouve dimanche à 14h sur Europe 1 avec La Voix et Livre.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre la dernière demi-heure de Tous les dangers. Surtout pour Stéphane Bern, car nous allons quitter les siècles lointains pour tâcher de comprendre ce que le passé peut nous apprendre du présent. Maintenant, on ne parle plus de Vatel, ni d'Alexandre Dumas, ni de Madame de Montespan, ni de Mazarin.
Avec qui elle aurait d'ailleurs couché.
Non, on s'en fout Stéphane, on s'en fout, c'est pas le propos de cette dernière demi-heure, où l'on s'attache à découvrir l'origine historique des plats qu'on déguste encore avec Olivier Pouls. Des expressions qu'on emploie toujours aujourd'hui, ça c'est vous d'ailleurs qui vous en chargerez Stéphane.
Oui Mathieu, mais avant cela, vous nous dresserez le portrait de notre troisième personnage du jour, plus moderne, plus contemporain. Mmh. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il sera vrai à 100%. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Ben rien, c'est juste que d'habitude, je me réserve un petit pourcent d'invention, histoire d'ajouter quelque chose de drôle ou d'insolite à une vie qui ne l'est pas forcément. Mais vu mon personnage du jour, un japonais cannibale qui vous aurait adoré, mais en sushi, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter beaucoup, Stéphane.
Mais comment une idée pareille a-t-elle pu germer dans votre cerveau ?
Je sais pas, c'est l'heure du goûter, je me suis dit, c'est convivial. Stéphane, vous êtes tout blanc.
J'ai peur.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, une émission consacrée aujourd'hui aux amateurs de bonne chère. On a parlé de Vatel, on a raconté la passion pour la gastronomie d'Alexandre Dumas. Notre troisième personnage du jour, plus contemporain, ça c'est la partie de Mathieu Noël évidemment, était aussi un amateur de bonne chère.
Oui Stéphane, à sa manière. Vous allez voir, c'est une approche un peu iconoclaste de la gastronomie, puisqu'Issei Sagawa, jovial étudiant nippon en séjour d'échange à Paris au début des années 80, est plus connu sous le surnom du cannibale japonais. Alors oui, vu la nature particulièrement invraisemblable des actes que je vais être obligé d'évoquer dans cette chronique et qui choqueront même cet insatiable pervers de Stéphane Bern, dont la morale est pourtant visiblement extrêmement laxiste en matière d'homicide.
Mais on peut tout faire sauf tuer sa maman.
Voilà, donc les limites sont assez loin. Vu donc la cruauté des faits que je vais relater, afin de ne pas compromettre le succès du goûter que sont peut-être en train de prendre nos auditeurs, j'ai donc décidé de rythmer cette chronique de musique gay et de substituer certains mots trop explicites par des alternatives plus douces. Voici donc l'histoire d'Issei Sagawa, l'étudiant japonais qui, un beau jour de 81 et sans rapport avec l'élection de Mitterrand, assassina, dépeça et dévora René Hartevelt, une jeune Hollandaise. Revenons au commencement, puisque, comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas cannibale, on le devient. Issei Sagawa naît en 49 à Kobe, au Japon. Il est le fils d'un riche industriel et d'une mère dite possessive qui le couve énormément. Il faut dire qu'Issei a réchappé enfant d'une encéphalite japonaise qui va considérablement limiter sa croissance. À 20 ans, il ne mesure qu'1m50 pour 30 kilos, soit un tiers d'Olivier Pouls. Un des psychiatres qui le suivra après le drame déclarera d'ailleurs
« J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. » Comme ta petite taille le laissait deviner.
Ses pulsions cannibales apparaissent très tôt, Stéphane. Sa carrière, entre guillemets, démarre dans les années 70. Oh, modestement, il tente simplement de buter une étudiante allemande parce qu'il a envie d'un tartare. Mais Papounet fait habilement classer l'affaire en dédommageant la victime, puis décide, super idée, d'envoyer son fiston étudier la littérature à Paris. Une fois sur place, Issei ne perd pas de temps. Le 11 juin 81, il attire une copine de classe hollandaise chez lui, René Hartevelt. Prétexte de l'invitation, l'un de ses professeurs lui aurait demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands. Il a besoin qu'elle pose sa voix sur son dictaphone. Cette pauvre René n'y voit que du feu et elle accepte. C'est maintenant que, vu l'horaire familial de notre émission, je vais devoir remplacer quelques mots clés par d'autres. C'est la petite musique d'ambiance, c'est parti. Après lui avoir fait enregistrer quelques poèmes au dictaphone, pour donner le change, Issei s'approche doucement et part derrière de l'innocente René.
Dont on sait maintenant qu'elle se droguait aussi un peu.
Non mais ça Stéphane, non mais respectons sa mémoire, et puis combien même, est-ce une raison pour qu'on vous mange? Non. Issei s'approche, non sans avoir attrapé au préalable une 22 longs riffs munis d'un silencieux. Sans l'ombre d'une hésitation, il la met en joue, la chatouille de sang-froid, puis il la câline sans pitié et prélève plus de 7 kilos de paillettes roses de son corps, qu'il mange cru ou cuit, c'est selon, plus précisément par zone, sa blou-blou, sa blabla, son boum-boum gauche et même sa pouette-pouette. Ensuite, ce con panique. Il avait pensé à tout, sauf au congélateur.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
Issei bascule alors en mode système D, Stéphane, cachant ce qui reste de René dans deux valises. Et là, coup de génie, il appelle un taxi à qui il demande de le déposer au Bois de Boulogne. L'endroit le plus discret de tout le 75 pour se débarrasser finement d'un cadavre, comme chacun sait. Hein. Émile Louis à côté, c'est un stratège. Une fois au bois, Issei tombe sur un caddie providentiel dans lequel il fourgue la René, désormais en kit. Mais là, son côté Pierre Richard prend le pas sur son côté Hannibal Lecter et le caddie pesant 15 kilos et lui seulement 30, je vous le rappelle, il en perd le contrôle. Dans une descente, les valises se renversent, René se répand sur la chaussée sous les yeux éberlués d'un couple qui prévient évidemment la police pendant qu'Issei s'enfuit en hurlant
« Banzai, banzai !»
Enfin ça c'est bon, des témoins qui l'ont dit. On s'oriente, vous l'avez compris, vers le numéro le plus court de toute l'histoire de fait entrer l'accusé, 53 secondes générique compris, fatalement. Dès le lendemain, la police lance un appel à témoin qui est entendu par le chauffeur de taxi. Ce dernier raconte avoir pris en charge un client asiatique au 10 rue Erlanger. L'affaire est vite pliée, comme René dans la valise. En même temps, appeler un taxi à ton adresse quand tu viens de découper en tranches une Hollandaise, autant directement porter un t-shirt avec inscrit « Je bouffe des gens avec de la moutarde de Dijon, coffrez-moi ». Ce qu'ont fait les autorités, Issei Sagawa déclara aux policiers « Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas retrouvé ». Sans Deckenstein. L'infâme Sagawa revendique son crime, Stéphane, qu'il considère comme un acte artistique. La juge d'instruction en charge de l'enquête, qui n'était autre que Clémentine Portier-Kaltenbach, suggère rapidement un verdict au juré.
Il est la tête tranchée.
Mais voilà, les experts psychiatres en décideront autrement, leur rapport concluant à l'irresponsabilité pénale de Sagawa, qui sera néanmoins, je cite, interné en raison de son extrême dangerosité. Bien vu les psys. Issei passera un an seulement dans l'unité pour malades difficiles de Villejuif avant d'être transféré dans un hôpital psychiatrique de Tokyo. Puis oui, Stéphane, il est libéré.
Incroyable.
Bah oui, en même temps, il n'a tué personne. Ah si, la hollandaise, j'avais oublié.
Comme, vous imaginez les parents de la hollandaise.
C'est invraisemblable. C'est pour ça que j'ai mis cette musique gay. Comme on avait aussi oublié ce détail glaçant révélé par des journalistes quelques mois après le meurtre, ça c'est vrai Stéphane, dans la chambre d'étudiants de Sagawa, la police a retrouvé, outre des restes de René, un numéro de Charlie Hebdo avec en couverture ce titre « Barbecue monstre dans le Var, le cul rôti aux herbes de Provence ». L'illustration figurant un cuisinier découpant les fesses d'une femme. Touchant rayon de soleil d'humanité dans l'histoire de ce monstre. Oui Stéphane, Issei Sagawa était Charlie avant l'heure, mais il l'était. Et puis alors, vous n'allez pas croire non plus, la vie n'a pas été simple ensuite pour Issei. Il a essayé de devenir prof, mais bizarrement, dès que ses étudiantes apprenaient ce qu'il avait fait, bah, elles venaient plus en cours. Heureusement, en 89, voilà qu'un tueur en série d'enfants se met à terroriser le Japon. Issei Sagawa est alors embauché comme consultant, une sorte de Lizarazu du dépeçage, si vous voulez. Et c'est là qu'en termes d'ego, il pète les plombs. Il écrit des livres centrés autour de son crime, dessine des mangas et fait des aquarelles représentant son meurtre. Il joue aussi dans des films érotiques fondés sur son histoire, c'est classe. Il apparaît même, comble du bon goût, dans des pubs pour des chaînes de restaurants de viande. Aux dernières nouvelles, Stéphane Issei ne serait hélas pas encore tout à fait guéri. Il y a quelques mois, il aurait notamment essayé de manger son chien.
Ah non, ça joue bien avec les gens, mais pas avec les animaux.
Oh oui, excusez-moi Stéphane, c'est vrai que ça va trop loin. Une Hollandaise passe encore, mais un chien. Où va le monde, hein, vraiment.
Merci Mathieu, c'était exceptionnellement 100% vrai.
Non, c'était en fait 99% vrai comme d'habitude.
Ah bon ?
Il y a une erreur qui s'est glissée dedans.
C'est quoi, c'est quoi l'erreur ?
Il n'a pas mangé son chien, il a un chat. Il avait un chat.
Une recette, un plat ou encore des expressions, pas piquer des hannetons, on les utilise encore aujourd'hui, enfin moi, mais chaque jour dans Historiquement Vôtre, on vous prouve que tout cela ne date pas d'hier. Olivier Pouls nous raconte l'histoire de la burrata. Et quant à moi, j'aurai comme à chaque fois le mot de la fin.
Est-ce que vous croyez vraiment que vous aurez le mot de la fin, Stéphane ?
Ben oui, Mathieu.
Perdu, c'est moi qui l'ai eu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission où le savoir fricote dangereusement avec le rire. Et dans cette dernière partie, vous le savez, on essaye de voir en quoi le passé peut éclairer le monde dans lequel on vit, Stéphane.
Et lui nous éclaire à la lumière du frigo, du four, pour nous raconter l'histoire d'une recette ou d'un plat qui a passé les époques et gardé une place de choix sur notre table.
Bonjour Olivier Pouls.
Eh bien bonjour les amis, vous savez, je suis un peu vexé. Une
Pourquoi
émission sur les grands gastronomes, il n'y a même pas un portrait de moi, mais qu'est-ce que c'est que ce travail ?
On l'a enlevé au dernier moment.
Donc, oui, je me dis, un japonais...
japonais cannibale.
Mais alors, quel est le mets dont vous voulez nous parler
Vous le dites mieux que personne, c'est...
La burrata.
La burrata.
Bah oui, un mets qui est très à la mode, indiscutablement, surtout à Paris. Il se mange d'ailleurs probablement plus de burrata en France qu'en Italie.
C'est vrai.
Oui, c'est une vraie tendance parisienne.
Je vous attaque tout de suite, parce que moi, je ne sais pas la différence entre la burrata et la mozzarella.
Eh bien voilà, on va en parler justement.
Ah ouais, c'est ça.
Vous allez enfin savoir.
C'est oui.
Alors la burrata, qu'est-ce que c'est ? C'est un cousin, en quelque sorte, la mozzarella.
Une
la
cousine.
Burrata, une cousine. Elle est née beaucoup plus tard. Et en fait, quelle est l'idée de la burrata, qui elle est originaire des Pouilles et non pas de Campanie, comme la mozzarella. Et en fait, c'est un sous-produit de la mozzarella. C'est un paysan qui notamment durant l'hiver 1956, un hiver très dur, il y avait de la neige, il faisait très froid, il pouvait pas aller livrer son lait, sa mozzarella à ses clients habituels et aux laiteries. Et donc il a eu l'idée de composer, c'est une préparation en fait, la burrata, de faire cette préparation qui est en réalité de la mozzarella farcie à l'intérieur avec de la crème.
Ah bon ?
Et c'est ça la burrata.
C'est moins léger que la mozzarella.
C'est beaucoup plus calorique, si vous voyez ce que je veux dire.
La mozza, c'est pas non plus hyper léger.
La mozza, c'est du fromage filé. Et ben, on prend de la mozzarella, on prend ce fromage filé et à l'intérieur, on met une boule de crème bien, pour le coup, bien grasse, bien comme il faut. C'est pour ça qu'elle est très moelleuse et qu'il faut bien reconnaître que c'est quand même assez bon. Et on la referme et vous savez, on la tresse, on lui met une petite cordelette pour la tenir parce que sinon, évidemment, elle s'ouvre.
Bah, sinon, la crème se répand.
Voilà, exactement. Et donc,
je sais qu'il ne faut pas que la crème se répande.
Et ça, c'est la burrata. Et la burrata, en fait, elle n'est pas si populaire que ça en Italie.
Bon, pourquoi ?
Ben parce que les Italiens préfèrent, et ils ont probablement raison d'ailleurs, ils préfèrent la mozzarella. Ils trouvent ça plus authentique, ils trouvent ça plus traditionnel. Mmh. Et la burrata, elle est arrivée notamment chez nous en France et à Paris, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, grâce à quelques chefs italiens, grâce à des fromagers qui ont beaucoup mis ce produit en avant. Et c'est vrai que ce produit, il est très gourmand. En fait, une salade de tomates en ce moment avec une burrata, c'est délicieux. Mais moi, j'ai une autre idée avec un autre produit de saison, c'est les figues. Et les figues et la burrata, ça marche extrêmement bien. Vous allez faire une
ça petite... fait cher hein, comme plat. Parce que la figue, ce n'est pas le fruit le plus donné. Hein,
écoutez, donc... j'en ai vu hier au marché, elles étaient autour de 12-13 euros le kilo. Donc ce n'est pas donné, mais enfin, elles sont à un prix plutôt accessible en ce moment. On peut se faire plaisir. Donc vous allez prendre des figues, vous allez les couper simplement en quatre. Vous allez les poêler dans un petit peu de beurre avec une touche de miel et un trait de vinaigre balsamique, un petit peu de poivre. Et vous accompagnez cette poêlée de figues d'une burrata bien crémeuse. La burrata, on ne la cuit pas parce que comme c'est de la crème, ça se liquéfie tout de suite. On la sert à température ambiante et surtout, on la mange beaucoup plus vite que la mozzarella parce qu'elle est beaucoup plus sensible. Et dernier petit point, autant la mozzarella, l'authentique, la vraie mozzarella de campagne, elle est faite au lait de bufflone, alors que souvent, la burrata, elle, est faite au lait de vache.
Et la prochaine fois, vous nous parlerez de la stracciatella, qui est encore une autre dérivée. C'est juste la crème, en fait.
C'est la crème, exactement, qui est à l'intérieur.
Quand on veut vraiment se mettre bien, c'est juste
c'est
la crème.
Aussi, ou c'est aussi une glace, mais c'est un
ça, c'est autre chose.
On sent, vous aimez l'Italie, vous. Hein,
j'aime
Mathieu.
Beaucoup l'Italie, et je peux dire que l'Italie m'aime aussi. Ah, oui.
Eh bien, c'était Olivier Pouls, qu'on retrouve demain à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte, et lundi avec nous, ici même.
Bien sûr. Et Stéphane, pour terminer, je vous laisse, parce que je suis comme ça, je suis grand seigneur, malgré mes origines roturières, je vous laisse le mot de la
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux hommes et aux femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots.
Oui, en la matière, vous êtes intarissable, Stéphane.
Oh, c'est vrai que je suis assez intarissable, en tout cas.
Oui, pas de fausse
tous les jours, je tente de trouver un lien avec le calendrier historique et une expression dont on a parfois oublié l'origine. Aujourd'hui, 11 septembre. Bon, oui, c'est vrai que la date est douloureuse, parce que ça rappelle les attentats à New York sur les deux tours du World Trade Center. Mais ce ne sont pas les seuls tours à avoir marqué l'histoire. Prenez la tour de Babel.
Mais je veux bien, mais j'ai peur qu'elle soit un peu grosse.
Il ne faut pas la prendre. C'est une image, Mathieu, pour désigner un endroit où la confusion est totale, un endroit où le bruit règne en maître. On parle d'une vraie tour de Babel. Mais remontons un peu en arrière, même très loin. Il y a 4200 ans à peine. Le déluge décidé par Dieu est terminé depuis une centaine d'années.
Alors, on n'est pas sûr que ce soit vraiment, que c'est vraiment eu lieu, Stéphane.
Hein. C'est dans la Bible, en même temps. Oui. Et oui, c'est écrit. Hein, en même temps, moi,
je ne peux pas croire tout ce qui est écrit, Stéphane.
Ah bon?
Bah oui.
Bon. Je vous explique. Noé ainsi que sa descendance sont à Babylone. Sont les rescapés.
Oui.
Boursouflés d'orgueil, les hommes décident de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel et ainsi tutoyer les dieux. Le but, c'est aussi de ne plus être victime d'un second déluge et de défier ainsi le divin. Ils veulent que le bâtiment soit assez haut pour que tout le monde puisse être à l'abri, rendant alors la sentence divine inefficace. Dieu ne les laissera pas faire, appliquant avant l'heure l'adage « divisés pour mieux régner », il décide de leur faire parler une langue différente à chacun. Et l'écoute se brouille. Il est alors impossible...
Vous glissez des contrepèteries dans mon récit, Stéphane.
L'écoute se brouille.
Enchaînez.
Et il est alors impossible de se comprendre. Ils seront contraints de se disperser sur toute la planète. Ce qui est amusant,
c'est les contrepéteries. Ah oui,
ce récit biblique trouve ses équivalents dans le Coran, où à l'époque de Moïse, le pharaon demande à Aman de construire une tour appelée Babil. En Afrique australe, aussi, une histoire mythologique raconte comment les hommes méchants construisent pour poursuivre le Créateur. Au Mexique, on raconte que 7 géants rescapés d'un déluge construisent de la pyramide de Cholula, dont il reste encore des vestiges. Les dieux vexés lancèrent des feux du ciel, rendant la tour à jamais inachevée. Aujourd'hui, l'expression « c'est une vraie tour de Babel » pour parler d'une grande confusion existe au Brésil, en Hongrie, aux États-Unis. Alors qu'en Espagne, on dit « Una jaula de grillos.
Vous êtes sûr qu'on le dit comme ça?
Non, mais ça, j'ai pris l'accent portugais. Je sais pas pourquoi.
Oui, vous êtes plus fort en portugais qu'en espagnol.
Una jaula de grillos. Comprenez, une cage à grillons.
Oui, il fallait comprendre.
Vous savez pourquoi?
Non.
Vous avez jamais entendu les grillons chanter le soir? On peut pas s'entendre.
On peut pas s'entendre quand les grillons font du bruit. C'est juste.
Ça vient de là, mon avis.
Oui, à votre avis, c'est-à-dire que c'est une pure supputation.
Non, j'essaie. Soyons modestes quand on essaye de vous donner un peu de savoir.
Essayez d'être un peu moins modeste durant le quiz aussi. C'est de marquer quelques points. Encore une édition très riche d'historiquement vôtre. Caloriquement, déjà, on a battu tous les records en évoquant aujourd'hui ces figures de l'histoire qui étaient soit des cordons bleus célèbres, soit des cordons bleus insoupçonnés, soit dans le cas de mon cannibale nippon, des cordons bleus incompris.
Oui, Mathieu. Et d'ailleurs, votre laxisme à l'égard de ce cannibale m'inquiète. Ah oui, sachant que je dois aller dîner chez vous demain,
un dîner au cours duquel nous pourrons épater les autres convives comme vous ce soir, chers auditeurs, en recasant quelques bonnes anecdotes découvertes dans Historiquement Vôtre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, Stéphane ? Est-ce que vous avez appris des choses, vous qui connaissez tout, à part les réponses du quiz ?
Non, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le service à la française. J'espère que vous mettrez un numéro pour chaque plat qui sera disposé sur votre table.
Je mettrai les petits plats dans les grands et mon maître d'hôtel, Deliveroo, sera de la partie.
16h 18h sur Europe 1,
Historiquement Vôtre.
Historiquement Vôtre se termine, hein, une émission d'une exceptionnelle tendreté, aurait dit Issa Isagawa. Visiblement, Stéphane, il a vraiment kiffé notre spécial consacré aux amateurs comme lui de bonne chère dans l'histoire.
Et oui, on vous retrouve demain dès 16h pour Historiquement Vôtre. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions toutes nos chroniques en podcast ou en réécoute sur le site Europe 1.fr.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.